Je peux apaiser une colère, déclencher une guerre, consoler un ami ou perdre un royaume. Je n'ai ni lame ni poing, mais on me craint parfois bien davantage. Qui suis-je ?
Eh bien, la réponse à cette énigme millénaire, c'est la parole.
Exactement. C'est une devinette traditionnelle qui est tirée directement de notre énorme pile de documents du jour. Et franchement, la sélection est vertigineuse.
Ouais, on a vraiment tout cette fois-ci.
On a sur la table des analyses structurelles hyper détaillées d'un conte folklorique très répandu, le conte type ATU-707. On l'appelle souvent l'oiseau de vérité.
C'est un grand classique.
Voilà. Et nos sources incluent aussi des scripts de théâtre adaptés de ce mythe, d'anciennes devinettes, comme celle que je viens de lire, et des essais vraiment profonds sur les mythologies mondiales.
Et le but de notre plongée au cœur de ces sources aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer le pouvoir absolu de la parole.
C'est ça. On va essayer de comprendre comment les mots créent littéralement la réalité, comment un mensonge a la capacité de pétrifier l'âme en quelque sorte, et comment la vérité finit toujours par restaurer l'équilibre du monde.
Vaste programme.
Bon, décortiquons un peu tout ça, parce qu'il est fascinant de voir comment un récit, qui en apparence est conçu pour les enfants, cache en fait un manuel de survie psychologique d'une précision redoutable.
C'est clair. Et je pense que pour tous ceux qui nous écoutent et qui se sentent parfois complètement noyés dans ce monde moderne, saturé de rumeurs, de fausses informations ou d'illusions numériques, ces textes anciens offrent une boussole assez inattendue.
Ah oui, complètement. On a l'impression que les fake news, c'est nouveau avec Internet, mais pas du tout.
Pas du tout, non. Les sources nous rappellent bien que la manipulation par le langage n'a pas attendu les réseaux sociaux. La guerre pour le contrôle de la réalité par les mots, c'est un conflit aussi vieux que l'humanité elle-même.
C'est fou quand on y pense. Mais avant d'entrer dans les rouages du conte principal, nos documents nous obligent à faire un petit pas en arrière, pour observer les fondations, en fait.
Oui, il faut poser le cadre.
Voilà. Parce que pour mesurer la gravité d'un mensonge, il faut d'abord saisir la sacralité originelle du mot. Les sources proposent une analogie que j'aime beaucoup, une analogie architecturale.
Mmh.
Au lieu de voir le langage comme une simple étiquette qu'on colle sur les choses, la parole serait le mortier qui maintient les briques de notre réalité collective. Si ce mortier s'effrite, tout le bâtiment s'effondre.
Et les mythes de création qu'on a consultés illustrent parfaitement cette fonction fondatrice. La parole ne vient pas décrire un monde qui est déjà terminé. C'est l'outil même de la fabrication.
Attends. Dans quel sens exactement ?
Prends l'Égypte ancienne, par exemple. Les textes décrivent le dieu Ptah qui crée l'univers. Et il ne le fait pas avec un effort physique. Il utilise une combinaison très précise, le cœur et la bouche.
Le cœur et la bouche, d'accord.
C'est ça. Il conçoit l'idée intellectuellement dans son cœur, puis il la prononce. Et c'est cette articulation vocale, le fait de parler, qui force le chaos informe à s'organiser en matière.
Donc la pensée devient tangible dès l'instant où elle franchit les lèvres, en fait.
Exactement. Et le Japon ancien pousse cette logique encore plus loin avec le concept du kotodama.
Le kotodama.
Ouais, qu'on peut traduire par l'âme des mots. Les essais mythologiques décrivent ça comme une énergie spirituelle active qui réside dans la phonétique même du langage.
Ah, donc le son est une importance.
Tout à fait. Une parole prononcée avec justesse et une intention pure, ça harmonise carrément l'environnement physique et social.
Et j'imagine que l'inverse est vrai aussi.
Bien sûr. Une parole brute, mensongère ou malveillante, ça va littéralement dérégler le monde matériel. Le mot est vu comme une graine vivante. Elle peut faire pousser un arbre ou répandre un poison.
Ok, je vois. C'est un peu comme du code informatique, en fait. Si on écrit un bon code, le programme tourne parfaitement. Mais si on introduit une petite ligne de mauvais code, tout le système d'exploitation plante.
C'est une excellente comparaison, ouais.
Mais du coup, que se passe-t-il quand ce code est intentionnellement malveillant ? Les mythes ont bien dû prévoir le coup des menteurs pathologiques, non ?
Ah ça, oui. Et ce qui est fascinant ici, c'est la récurrence d'un archétype spécifique à travers toutes les cultures, le fameux trickster, le décepteur.
Comme Loki chez les Nordiques ?
Exactement. Loki, le dieu de la ruse. Ou Anans, l'araignée en Afrique de l'Ouest. Et le coyoté chez les peuples amérindiens. Leur arme principale, c'est jamais la force brute. C'est le sophisme, la demi-vérité, l'embrouille verbale totale.
Ouais, ils utilisent le mortier dont on parlait pour construire des labyrinthes au lieu de construire des ponts.
C'est joliment dit et c'est tout à fait ça. Leur fonction dans les mythes, c'est d'introduire le chaos en désorientant tout le monde. Ils prouvent par l'absurde que la solidité d'un royaume ou d'une famille ne repose que sur un contrat verbal.
C'est effrayant quand on y pense.
Très, parce que si quelqu'un arrive à invalider ce contrat par un mensonge bien placé, la réalité entière des victimes s'effondre. Et ça, sans qu'une seule goutte de sang n'ait été physiquement versée.
Justement, cette idée d'effondrement psychologique, ça nous amène directement au cœur de notre exploration. Comment ce poison verbal se manifeste-t-il concrètement à l'échelle d'une histoire humaine, intime ?
C'est là qu'intervient le conte type ATU-707.
L'oiseau de vérité. Nos sources indiquent que c'est l'une des histoires les plus universellement partagées sur Terre. Ça va de l'Europe jusqu'aux confins de l'Orient.
Oui, on le retrouve partout sous différentes formes.
Le récit s'ouvre sur trois sœurs qui discutent pendant la nuit. Elles parlent de leurs ambitions matrimoniales.
Et le choix de leurs vœux est hyper révélateur de leur niveau de conscience, tu vas voir. L'aînée exprime le désir d'épouser le pâtissier du roi.
Pour manger des gâteaux sans fin, si je me souviens bien.
C'est ça. Sa motivation est purement liée à la satisfaction des instincts primaires, la gloutonnerie. La cadette, elle, souhaite épouser le tailleur.
Pour avoir les plus belles robes, donc c'est la vanité.
Exactement. L'apparence, le statut.
Mais la plus jeune sœur, elle ne s'intéresse ni à la gloutonnerie ni à la vanité. Elle annonce carrément vouloir épouser le roi en personne. Et elle fait une promesse assez dingue.
Ah oui, la promesse des enfants cosmiques.
Voilà. Elle promet de lui donner des enfants porteurs de marques célestes. Un garçon avec un soleil d'or sur le front et une fille avec une lune d'argent.
Le roi, qui écoutait caché dans l'ombre, entend tout ça. Et il décide de réaliser les souhaits de chacune. Il épouse la plus jeune et marie les aînés aux artisans de la cour.
Donc, en apparence, tout le monde est content. Chaque sœur obtient exactement ce qu'elle a demandé. L'aînée a sa nourriture illimitée, la cadette sa garde-robe géante.
Sauf que non, pas du tout. Les sources introduisent ici un concept clinique très pointu pour analyser ce qui se passe ensuite, ce qu'elles appellent la jalousie ontologique.
Attends, ontologique, c'est un terme assez lourd. On ne parle pas d'une simple envie passagère, genre « je veux le sac de ma voisine », là. On parle d'une attaque sur la nature même de l'être, c'est ça?
C'est la distinction fondamentale, ouais. Une jalousie classique dirait « je veux la couronne de ma sœur ». Mais la jalousie ontologique, ça va beaucoup plus loin. Ça dit « la lumière irradiante de ma sœur me rappelle l'immensité de mon propre vide. Et pour cesser de souffrir, je dois éteindre sa lumière. »
Ah ouais, c'est sombre.
Très sombre. L'aînée mange, mais elle se sent toujours vide. La cadette a ses belles robes, mais elle se trouve toujours laide intérieurement. Et face à la jeune reine qui tombe enceinte de ses enfants lumineux, solaires et lunaires, le manque des aînés devient complètement insupportable.
Et c'est là qu'elle décide de détruire cette beauté pour rééquilibrer leur propre médiocrité, en fait.
C'est exactement le plan.
Elle s'arrange pour devenir les sages-femmes de la reine. Et au moment de l'accouchement, elle passe à l'action. La reine s'endort, épuisée, juste après avoir donné naissance à ses enfants merveilleux. Et là, les sœurs jettent les nouveau-nés dans une rivière.
C'est terrible. Et ça ne s'arrête pas là.
Non. Dans le berceau, à la place des bébés, elle dépose des animaux. À la première naissance, c'est un chiot. À la deuxième, un putois. Et à la troisième, carrément un seau rempli de vers grouillants.
Et le choix de ces substituts dans le folklore n'est pas du tout aléatoire. Le chiot représente l'animal domestique, soumis. C'est l'antithèse absolue de la royauté divine.
Et le putois ?
Le putois introduit l'idée d'une odeur nauséabonde, d'une souillure. Dans les anciennes superstitions, c'est souvent associé au vol et à la tromperie. Quant au vers grouillant, ben, c'est l'image ultime de la putréfaction, de la mort. Elle remplace littéralement la vie par la décomposition.
Et voici où ça devient vraiment intéressant. Les sources nous disent que le roi découvre ses horreurs dans le berceau. Et il y croit.
Oui, il tombe dans le panneau.
Mais il faut s'arrêter une seconde sur ce point. Comment un monarque, un type qui gère un état entier, peut-il être assez aveugle pour croire que sa femme a biologiquement accouché d'un chien ou d'un tas de vers? C'est anatomiquement impossible. Pourquoi il accepte cette fausse réalité sans exiger la moindre enquête?
Eh bien, cette invraisemblance biologique, c'est justement la clé du mécanisme que le conte essaie d'exposer. Le mensonge des sœurs ne fonctionnerait jamais s'il était isolé.
C'est-à-dire?
Les analyses structurelles montrent que l'illusion est portée par un phénomène beaucoup plus large, la rumeur systémique. La rumeur est décrite dans les textes comme un gaz toxique insidieux qui sature tout l'espace social.
Ah, donc elles n'ont pas juste menti au roi?
Non, elles ont d'abord murmuré dans les couloirs du palais que la reine pratiquait la sorcellerie, qu'elle fréquentait des esprits démoniaques, ce genre de choses.
Je vois. Donc le roi n'observe pas le berceau avec des yeux neutres. Son esprit est déjà complètement empoisonné par l'atmosphère corrompue de son propre royaume.
Exactement. Le roi souffre de ce que les documents qualifient de souveraineté défaillante. Dans ces mythologies, la vraie fonction d'un souverain, ce n'est pas d'avoir la plus grosse armée. C'est de posséder le discernement.
La capacité de séparer le vrai du faux.
Voilà. Et en perdant cette acuité, le roi s'effondre psychiquement, la rationalité disparaît et elle est remplacée par une indignation terrifiée. Du coup, il condamne la reine, innocente, à être enfermée dans une cage de fer.
Une cage suspendue à la porte de la ville, exposée au crachat de la foule. L'image de la cage montre bien que le mensonge ne se contente pas de masquer la vérité. Il s'acharne à l'humilier publiquement.
C'est la cruauté du mensonge absolu.
Heureusement, le conte préserve une lueur d'espoir. Les enfants jetés à la rivière ne se noient pas. Dans certaines variantes, un banc de poissons forme un radeau avec leurs écailles pour les sauver. Et au final, un vieux couple de pêcheurs extrêmement pauvres les recueille et les élève en secret.
Et ce détail récurrent est super important. Il insiste sur le fait que la garde de la vérité, ou la noblesse d'âme, se réfugie très souvent aux marges de la société, chez les plus humbles, quand les structures du pouvoir officiel sont corrompues.
Les années passent, les parents adoptifs meurent, et les enfants qu'on appelle Héliodore, Luca et Argentine, dans la plupart des traductions, finissent par apprendre leurs origines royales.
Mais pour prouver leur identité au monde, ils doivent ramener trois entités mythiques. L'arbre qui chante, l'eau qui danse et fameux l'oiseau de vérité.
Ce sont d'abord les garçons qui entreprennent la quête. C'est assez classique. Ils prennent leurs armes, leurs chevaux, et arrivent au pied d'une montagne rocheuse immense. La montagne noire.
C'est la tentative d'approche par la voie héroïque masculine, la force frontale.
Au pied de la montagne, un ermite leur donne une consigne très claire. Quoi que vous entendiez pendant l'ascension, ne vous retournez sous aucun prétexte et ne répondez jamais aux voix. Les frères commencent à grimper. Et là, l'air se remplit de hurlements.
Mais ce ne sont pas des monstres physiques ?
Non, aucune attaque physique. Tout est purement verbal. La montagne crache des insultes, des moqueries, jusqu'à ce qu'une voix pose une question d'une cruauté chirurgicale. Elle hurle « Pourquoi tes parents t'ont-ils abandonné ?»
Ouch.
Touchés en plein cœur, les princes cèdent à cette blessure narcissique. Ils se retournent pour affronter la voix, et à cet instant précis, bam, ils sont transformés en statues de pierre noire. Chez eux, un couteau laissé en gage se met à saigner. Pour prévenir leur sœur du désastre.
Cette image de la pétrification, elle est d'une richesse psychologique inépuisable dans nos sources. Les textes définissent cet état comme l'archétype de la psyché sidérée.
C'est plus qu'un simple sortilège, hein, magique, alors.
Bien plus. Être changé en pierre, c'est la paralysie absolue de la conscience. Au moment où les frères acceptent de débattre avec le mensonge, au moment où ils accordent du crédit à cette calomnie, leur vie intérieure se fige. Leurs épées et leurs muscles ne servent à rien contre une agression psychologique.
En lisant cette partie, j'ai tout de suite pensé à nos réseaux sociaux modernes. Franchement, la montagne noire, c'est l'architecture même de l'espace virtuel d'aujourd'hui.
L'analogie est parfaite, ouais.
Les frères ont du courage, de bonnes intentions, mais ils font l'erreur fatale de répondre aux trolls. Ils s'arrêtent pour justifier leur existence face à des voix anonymes dont le seul but est de pomper leur énergie. Et cette interaction les pétrifie.
C'est une lecture sociologique très pertinente du mythe. Le conte nous dit clairement que la réponse frontale valide l'attaque. Si l'héroïsme traditionnel échoue ici, il faut une autre technologie de survie. Et c'est là que la sœur cadette, Argentine, entre en scène.
Elle reprend la quête, mais elle modifie entièrement l'approche du problème.
Comment elle s'y prend ?
Eh bien, elle part sans armure lourde, elle écoute le même avertissement de l'ermite, mais elle y ajoute un rempart personnel. Selon les versions, soit elle se bouche les oreilles avec du coton, soit elle avance avec une concentration intérieure absolue.
Et les voix de la montagne ?
Elle redouble de violence. Elle tente de la culpabiliser en hurlant que ses frères sont morts par sa faute, qu'une simple fille n'arrivera jamais au sommet. Mais elle ne ralentit pas. Elle ne ressent aucun besoin de corriger ses voix ou de prouver sa valeur. Et miracle, elle atteint le sommet indemne.
Si on relie ça à la vue d'ensemble de notre discussion, Argentine incarne ce qu'on pourrait appeler l'héroïsme du discernement.
Le discernement, toujours.
Exactement. Sa victoire ne repose pas sur la destruction de l'ennemi, elle repose sur l'invalidation du faux par l'indifférence. Elle traverse cet espace toxique sans lui accorder la moindre once de réalité. En refusant de se retourner, elle reste fluide face à un environnement qui veut la figer.
Mur contre la calomnie, c'est pas la contre-attaque rhétorique. Le bouclier ultime, c'est la fidélité silencieuse à sa propre direction intérieure.
Et la récompense qu'elle trouve au sommet est à la hauteur de sa discipline mentale. Argilandi découvre l'arbre qui chante, qui symbolise l'axe du monde avec sa musique harmonieuse, tout l'inverse du bruit de la montagne.
Ensuite, elle trouve l'eau qui danse.
La force de la mémoire véritable, capable de laver les souillures. Et bien sûr, l'oiseau de vérité, la conscience supérieure capable d'articuler la réalité avec une clarté parfaite.
Armée de cette eau purificatrice, elle redescend, elle verse quelques gouttes sur les statues, ce qui libère ses frères et des centaines d'autres prisonniers. Ils rentrent tous dans la vallée, la vérité intime est rétablie entre eux. On pourrait croire que c'est fini, mais les essais mythologiques soulignent qu'il manque une dernière chose.
Oui, parce que restaurer la vérité dans la sphère privée, ça ne suffit pas à guérir un monde corrompu. Les sources font référence au concept égyptien de la Maat.
La justice universelle.
Voilà. Pour que la Maat soit rétablie, la vérité doit éclater dans l'espace public, là où le mensonge a été prononcé au départ. Le royaume vit encore sous le joug de l'illusion des tentes jalouses.
Stratagème. Les enfants organisent un immense banquet et invitent le roi, la cour et les fameuses tentes. Au moment du repas, on apporte un plat spectaculaire, un poisson géant. Mais quand on l'ouvre, il n'y a pas de chair. Il est rempli de diamants et d'or.
Et là, le roi s'outre.
Totalement. Il se lève furieux et s'écrie que c'est absolument impossible qu'un animal marin contienne des joyaux. Et c'est là que l'oiseau de vérité intervient.
C'est ce que les analystes nomment un dispositif herméneutique redoutable. L'oiseau utilise la réaction du roi face à une fausse réalité présente pour détruire son acceptation d'une fausse réalité passée.
Il lui balance « Vous vous indignez à l'idée qu'un poisson puisse receler des diamants, mais vous n'avez aucune difficulté à croire qu'une reine humaine puisse enfanter des chiens et des putois. »
Le piège se referme. Le monarque est foudroyé par son propre aveuglement. La rumeur systémique s'évapore d'un coup face à cette clarté publique.
Et la justice frappe immédiatement. Les tentes, prises de panique, s'étouffent avec une arête de ce fameux poisson. L'ironie est folle, hein ? Elles sont punies par la gorge. L'organe de la parole qui a distillé le poison devient l'instrument de leur mort.
La boucle narrative est bouclée avec une précision mathématique. La mort par suffocation montre bien l'incapacité finale du mensonge à continuer de respirer.
Mais certains scripts de théâtre vont plus loin avec un dernier acte qui élève l'histoire au-delà de la simple vengeance. Le roi, réalisant l'horreur des tortures infligées à sa femme, s'effondre de culpabilité. Il ordonne à son bourreau de lui trancher la tête. Le bourreau frappe, la hache se brise en 1000 morceaux. Une deuxième hache éclate, une troisième se fracasse sur le billot.
Le sang ne lave pas le mensonge. La violence physique ne répare pas une déchirure ontologique.
C'est la reine purifiée par l'eau qui danse, qui s'avance. Elle relève le roi, dépose une goutte d'eau sur son front et lui pardonne. L'histoire s'achève sur la guérison, pas sur la vengeance.
C'est une vision extraordinairement mature. C'est l'alliance de la vérité objective et de la miséricorde qui permet de recréer le tissu social. Et honnêtement, l'image de la montagne noire s'impose vraiment comme une cartographie de notre époque. On évolue tous les jours sur ses pentes, interpellés par des clameurs conçues pour nous figer. Cultiver ce silence intérieur est notre seul rempart.
Garder son cap intérieur et traverser le bruit. La leçon est lumineuse. Mais avant de clore, il me reste une toute petite histoire à partager, trouvée dans nos sources. C'est l'histoire étrange du crâne bavard. Un récit très bref, mais qui donne une autre dimension au verbe.
Ah, je suis tout ouïe.
Un pêcheur marche sur une plage. Il trébuche sur un crâne humain blanchi par le soleil. À sa grande stupeur, le crâne s'anime et parle. Le pêcheur demande « Qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Le crâne répond avec une voix caverneuse. « C'est la parole qui m'a amené ici. »
Ok.
Le pêcheur, pensant devenir riche, court chercher le roi et la cour. Il les amène sur la plage. La foule se rassemble. Le pêcheur ordonne au crâne de parler. Et là, silence total. Le crâne reste muet.
J'imagine que le roi n'a pas dû apprécier.
Pas du tout. Se sentant humilié, le roi entre dans une colère noire et décapite le pêcheur d'un seul coup d'épée. Il repart avec sa cour, la tête du malheureux roule et s'immobilise à côté du vieux crâne. Une fois la plage redevenue calme, le vieux crâne entr'ouvre ses mâchoires, regarde la tête fraîchement coupée et demande « Qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Et la tête murmure la parole.
Ouf, la chute est glaciale.
N'est-ce pas ? On a passé tout ce temps à célébrer la parole qui clarifie, qui guérit le monde.
Et pourtant, cette parabole finale nous laisse sur une ironie mordante. Si l'articulation de la vérité est essentielle, il y a des moments face au pouvoir ou face à une foule incapable d'écouter où la plus grande preuve de discernement, c'est simplement de savoir garder le silence. Ce fameux mot de notre énigme de départ, dépourvu de lame et de poing, continue décidément de décider de notre sort.